Deux mots pour rappeler ce qui s'est passé la journée d'hier, où nous avons beaucoup appris sur le relatif et l'universel. D'abord dans les fonctions cognitives, à travers l'exposé d'Alain Berthoz, puis dans l'articulation des langues par rapport au langage, c'était l'exposé de Claude Agege. Et puis l'après-midi, nous avons retrouvé ce thème dans les civilisations anciennes de Mésopotamie, comme dans les milieux bibliques. Et en fin d'après-midi, à travers les divers modèles dont Philippe Descola nous a dit qu'il s'agissait moins de modèles de représentation, nature-culture, que de modèles d'actualisation. Et il a développé ce point d'actualisation au monde. Alors aujourd'hui, nous abordons une démarche prospective pour tenter de saisir l'impact des biotechnologies. Et ensuite, poser la question, ce sera la fin de la matinée, post-humanisation ou déshumanisation, question qui nous ramène à la question du droit et du rôle du droit dans sa dimension collective et institutionnelle, et au fond à une problématique, comment distinguer l'humain de l'inhumain et du non-humain. Mais avant de parler de biotechnologie, il faut interroger les neurosciences sur ce qui caractérise l'humain, et notamment, indépendamment, au-delà de la génétique, la variabilité épigénétique qui fonde en quelque sorte ce que j'appellerais en termes juridiques le principe d'indétermination. Alors merci à Jean-Pierre Changeux d'avoir accepté de déplacer ses engagements et de venir nous rejoindre ce matin.
Merci Mireille Delmas-Marty pour cette invitation et toutes mes excuses parce que je comptais venir hier matin et malheureusement pour des chevauchements de programme, je n'ai pas pu être parmi vous. Donc je viens un petit peu en retard parce que je pense que ce que je vais vous dire constitue en fait, je n'ose employer le terme, mais un fondement d'une réflexion philosophique, si l'on peut dire. Mais je sais que les philosophes n'aiment pas qu'on utilise le mot fondement et j'ai été en conflit très, très vif avec Lucien Sèvres qui ne voulait pas entendre parler de fonder des philosophies sur des connaissances scientifiques. Mais pour ma part, je pense qu'il est indispensable de prendre en compte la dimension neurobiologique et je dirais neurocognitive si l'on veut comprendre à la fois ce que l'on appelle l'hominisation, ou plutôt les origines biologiques de l'homme, et l'humanisation. Le mot hominisation étant parfois connoté comme incluant une certaine forme de finalité de l'évolution vers l'homme, ce qui n'est pas du tout mon point de vue. L'homme est évidemment un incident de parcours de l'évolution qui a réussi, et comme nous allons le voir dans quelques minutes. Donc, j'ai suivi la recommandation de Mireille Delmas-Marty qui m'a demandé de parler de la variabilité, de l'indétermination, de l'individuation et de la création et dire quelques mots à nouveau de cette création, même que sans autre l'art, la peinture, mais aussi bien entendu la normativité éthique et la variabilité symbolique d'une société à l'autre. D'abord, le propre de l'homme, son cerveau. Bon, je pense que c'est inutile d'insister sur le fait que le cerveau est le siège de la pensée. La proposition date de la philosophie grecque ancienne. Et nous avons l'ordre d'une centaine de milliards de neurones et approximativement 1 000 000 000 000 de contacts entre ces cellules nerveuses dans notre cerveau. Et ce qui est important de prendre en considération, parce que souvent les physiologistes, malheureusement, et les psychologues encore moins, ne font pas, c'est de se poser la question de savoir comment cette activité cérébrale et ces fonctions cérébrales qui en résultent, dont les fonctions dites psychologiques et cognitives, comment ces fonctions sont produites par notre cerveau. Bien, notre cerveau est composé exclusivement de cellules de grandes catégories, les neurones, vous les voyez ici, avec ces multiples prolongements, et les cellules gliales qui viennent en quelque sorte viennent à l'aide de ces cellules nerveuses pour leur apporter produits indispensables à leur bon fonctionnement. Ce qui est important de souligner, c'est que ces cellules nerveuses constituent un réseau discontinu. Il y a eu un débat très vif à la fin du 19e siècle sur ce sujet entre Golgi et Karal. Golgi défendait une continuité entre cellules nerveuses et Karal une contiguïté, c'est-à-dire une discontinuité. Et il est évident que idéologiquement, à l'époque, Golgi avait le soutien de l'Église et d'autres institutions dites qui font appel au dualisme, parce que évidemment l'âme circule plus facilement si il y a continuité que s'il y a contiguïté. En effet, l'existence d'une contiguïté impose processus de communication entre cellules d'un type défini, à laquelle on ne peut pas échapper, et évidemment c'est parfois difficile à accepter dans les sciences humaines, mais dans ces réseaux de cellules nerveuses circulent des influx nerveux, des impulsions qui sont entièrement réductibles à des mécanismes physico-chimiques qui sont d'ailleurs universels chez la plupart des êtres vivants supérieurs, ce qui se propage à une vitesse qui est d'ailleurs inférieure à la vitesse du son, ce qui est intéressant à noter, ce qui entraîne évidemment des contraintes sur les temps dits psychologiques. Et au niveau donc de ces contacts en cellules nerveuses, deux types de communication ont lieu, un électrique mais moins efficace qu'un autre type de communication qui peut être un peu plus répandu, qui est la communication chimique. Et des substances chimiques, des neurotransmetteurs interviennent ici. On voit bien des vésicules qui contiennent ce neurotransmetteur qui est libéré lorsque l'influx nerveux envahit la terminaison nerveuse, libéré dans l'espace synaptique, et vont se fixer sur des récepteurs présents sur la membrane postsynaptique et créer des changements de propriété électrique de cette membrane postsynaptique. Donc vous voyez qu'on part du signal électrique, on aboutit au signal électrique entre les deux, un signal chimique et des changements importants, il faut retenir, d'efficacité possible au niveau postsynaptique et au niveau présynaptique, qui entraîne en quelque sorte une modulation des processus de transmission. Ceci est évidemment très important à prendre en considération, quand vous m'écoutez, quand vous réfléchissez, il faut que vous sachiez que vous avez dans votre cerveau des mécanismes de ce type qui interviennent de manière obligatoire. Je tiens à le dire. Et si je vous injecte un anesthésique général, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui, mais que vous aurez à subir fort heureusement si on vous soumet à une opération chirurgicale, eh bien vous allez avoir une perte de conscience. Il y a donc, comme je le dirais tout à l'heure, une chimie de la conscience. Et si vous vous sentez pas très bien, dépressif, ou si vous dormez mal, on vous distribue des agents pharmacologiques malheureusement fort utilisés en France qui agissent sur ces récepteurs que vous voyez ici. Donc vous voyez que nos fonctions cérébrales sont, je dirais, et ça c'est d'ailleurs non équivoque, déterminées par ces mécanismes élémentaires qui circulent dans nos neurones. Autre phénomène intéressant à prendre en considération, c'est que cette activité qui circule dans le cerveau n'est pas simplement évoquée par le monde extérieur, mais aussi peut intervenir de manière spontanée. Il existe des oscillateurs dans ces cellules nerveuses et qui sont eux-mêmes intégralement décrits par des processus moléculaires. Donc je crois qu'on ne peut pas échapper à l'idée que, comme pour Bachelard, le proposer pour la chimie, eh bien, nous avons à prendre en considération, sans y préjuger idéologique en aucune manière, je pense que la pression des faits est là, et je sais que pour beaucoup de philosophes et de personnes qui réfléchissent dans les sciences humaines, c'est proposition extrêmement difficile à avaler, mais il faut le prendre en compte, c'est que nos fonctions cérébrales, au fond, reposent sur ces mécanismes et que nous devons avoir présent en tête l'idée d'un matérialisme instruit si nous voulons vraiment comprendre comment fonctionne notre cerveau. Alors, évidemment, on peut répliquer, et ça a été fait, mais notre cerveau, dans ce contexte, n'est pas un tas de sable. C'est ce qui avait été déjà dit au temps des Lumières. Et évidemment, il faut bien comprendre ce matérialisme instruit, et le mot instruit est évidemment très important, ou éclairé, si on veut, en pensant à l'organisation de ces cellules nerveuses, qui, évidemment, ne se résulte pas simplement d'une distribution au hasard des neurones dans notre cerveau. Il y a une marge de variabilité, je vais y revenir. Mais ce qui est important à prendre en considération, c'est que cette organisation de notre cerveau s'est construite progressivement au cours de l'évolution par des processus darwiniens et qu'il existe des niveaux de variabilité enchâssés dans le cerveau de l'homme. D'abord au niveau génétique, c'est l'évolution des espèces, vous la voyez illustrée ici. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette évolution a été extrêmement rapide. Depuis les premiers Homo, enfin ça c'est une classification des paléontologues, Homo habilis à Homo sapiens s'est produit en 2-3 millions d'années. Donc c'est une évolution rapide, l'Homo sapiens lui-même étant apparu il y a seulement 100 000 ans. Ce qui veut dire que nous sommes des produits récents de l'évolution cette évolution donc a eu lieu, et ça c'est quand même très important de le souligner, au niveau génétique, et je vais revenir sur ce point. Il existe un autre niveau d'évolution et plusieurs autres évolutions emboîtées qui sont très importantes à prendre en considération. D'abord, notre cerveau adulte ne se développe pas en une journée. Il y a tout un processus d'embryogenèse qui a lieu, et aussi, bien entendu, en plus de ce processus de mise en place des cellules nerveuses, cette interconnexion entre cellules nerveuses qui contribue à la formation du réseau que constitue notre cerveau. Alors cet aspect-là est évidemment extrêmement important. On oublie, ceux qui font de la génétique moléculaire souvent tendent à l'oublier, ils considèrent le cerveau un peu comme un organe comme les autres, comme l'estomac ou le foie. Eh bien, pas du tout. C'est-à-dire que le cerveau est le seul organe de notre corps à atteindre un niveau d'organisation de cette complexité-là, puisque dans le foie, bon, une cellule hépatique est en contact avec peut-être une dizaine d'autres cellules hépatiques. Ici, la moyenne, c'est 10 000. Donc vous voyez qu'on a un niveau d'organisation extrêmement différent de tous ceux qui existent dans les autres organes du corps, et que nous devons prendre cet aspect en considération si nous voulons comprendre le fonctionnement du cerveau. Alors, il y a ce développement ontogénétique qui prend des jours et bien entendu des années. Je reviendrai sur ce point qui est extrêmement important si on veut comprendre ce que Mireille Delmas Marty appelait l'humanisation. Et il y a ensuite bien d'autres types d'évolution importante, c'est celui de la dynamique de la pensée. J'ai mentionné tout à l'heure ces changements d'efficacité synaptique au niveau de la transmission. Ils sont évidemment très importants et vont participer à cette dynamique des représentations que nous formons dans notre cerveau. Et lorsque vous m'écoutez, évidemment, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais votre cerveau est en train d'évoluer en fonction du temps. D'abord, vous écoutez ce que je vous dis, vous n'êtes pas nécessairement obligé de le croire, vous réagissez intérieurement, vous formez des opinions critiques, positives ou négatives, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dynamique interactive qui se produit et qui contribue donc à l'évolution de ce que vous formez dans votre cerveau sous l'angle des représentations. Évidemment, vous pouvez ensuite écrire, après le symposium de Mireille Delimas-Marty, et vous arrivez à ce qu'on appelle une production culturelle extracérébrale, et celle-ci peut être stockée dans votre ordinateur, communiquée, etc., ou mise dans des livres et reprise. Des mémoires donc extracérébrales qui sont quasiment uniques pour l'espèce humaine et qui contribuent à cette dynamique évolutive des représentations. Donc je crois qu'il faut abandonner un schéma qu'aiment beaucoup d'ailleurs les philosophes et souvent les représentants des sciences humaines, l'idée que notre cerveau est une sorte de papier blanc dans lequel s'inscrivent l'expérience et contribue à la structuration de notre cerveau. Bon. Le cerveau de l'homme n'est pas une éponge, c'est une métaphore un peu brutale, mais quel que soit le niveau d'organisation, il se trouve que nous sommes confrontés à un schéma de variabilité préexistante et de sélection. Ça, c'est en quelque sorte une proposition théorique, je tiens à vous le dire. Certains ne l'acceptent pas nécessairement, mais pour ma part, je considère qu'il y a, ça c'est la proposition générale que je vous fais, qui n'est pas comparable à celle du matérialisme éclairé qui, elle, s'impose. Ici, vous n'êtes pas obligé, évidemment, de l'accepter, mais c'est une proposition théorique d'ensemble pour orienter notre réflexion. Alors, je vais prendre successivement divers niveau d'organisation, commencer par la variabilité génétique et l'évolution biologique de ce que Mireille Delmas-Marty a appelé l'hominisation. Pour ma part, je dirais simplement évolution biologique des ancêtres de l'homme. Et pour commencer, montrer qu'il y a non seulement une évolution génétique, mais que l'évolution culturelle qui se développe simultanément, de manière concomitante, elle-même évolue en fonction de l'évolution génétique. Vous avez ici le cas de l'Homo habilis, que j'ai déjà mentionné. Ce n'est pas, évidemment, le premier ancêtre de l'âme. Il y en a bien d'autres qui ont précédé. Mais je commence là, d'une manière tout à fait arbitraire, avec un cerveau qui est quand même très modeste, d'environ 650 centimètres cubes en moyenne. Alors que celui de l'homme, c'est 1400 cm3, 1350. Pratiquement le tiers, un peu plus du tiers en volume du cerveau de l'homme. Et on voit déjà des premiers outils de pierre qui apparaissent, et nous sommes à 2,5 millions d'années. Récemment, ont été publiés des travaux de paléontologues qui suggèrent que ces outils commençaient déjà à exister chez l'Australopithèque qui a précédé Homo habilis. C'est une question qui est débattue. Ensuite, il y a évolution du cerveau qui atteint avec l'Homo erectus il y a environ 1,5 million d'années 800 centimètres cubes. Il y a production d'outils. Il y a aussi l'invention du feu vers 500 000, et c'est très beau biface aquelien que vous voyez ici avec la découverte de la symétrie. Ensuite, il y a découverte du symbolisme avec l'Homo heidelbergensis et un cerveau qui n'est pas encore aussi voluminé que le cerveau de l'homme. Quand je parle de volume, c'est juste un indicateur, car, comme vous verrez, évidemment, le cerveau s'organise en même temps qu'il accroît de volume. Et les premières offrandes funéraires, donc, qui ne sont pas propres à l'Homo sapiens, c'est important de le souligner, mais qui existent déjà chez un ancêtre de l'homme à 300 000 ans, à la veine sépulcrale en Espagne. Des offrandes funéraires et des 100 000 ans, apparition de l'Homo sapiens, toujours en Afrique, environ 1,400 cm3. Et là, on se trouve en présence d'une espèce qui a la capacité de produire des œuvres d'art d'une qualité très semblable à celle de l'Homo sapiens aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que En 100 000 ans, les choses ont beaucoup changé en ce qui concerne le cerveau de l'homme. Il est évident que ces productions qui datent de 30 000 ans ont été précédées par d'autres étapes, certainement qu'on connaît mal ou pas. L'homme de Néandertal, dont nous avons pas mal de gènes dans notre génome, 10-15%, avait aussi une certaine forme d'activité artistique, mais très modeste, et finalement on l'ignore essentiellement. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au cours de cette évolution, il y a non seulement eu un accroissement de taille, mais une expansion du cortex cérébral différentiel par rapport au sous-cortical et évidemment du cortex préfrontal, sur lequel je reviendrai, et avec un développement de l'asymétrie hémisphérique droite-gauche, qui est lié évidemment au développement du langage. Il semble qu'il y a eu des précurseurs de la production du langage chez peut-être l'Homo habilis, et débattu, mais il est évident que le langage n'est pas apparu du jour au lendemain non plus chez l'Homo sapiens il y a 100 000 ans. Il existe très certainement des antécédents. Maintenant, quelle forme ils étaient, on ne le sait pas. Certains ont cru pouvoir retrouver des enregistrements sur les parois des grottes. Je crois qu'on est loin du compte. Mais en tout cas, ces précurseurs du langage parlé, très vraisemblablement, existaient avant l'Homo sapiens. Alors, cette constatation s'accompagne d'un paradoxe pour les généticiens que nous sommes, puisque je suis avant tout biologiste moléculaire. C'est que si on regarde le nombre de gènes, encore une fois, c'est comme la taille du cerveau, c'est un indicateur, ce n'est pas du tout, je dirais, l'essentiel de ce qui détermine l'évolution, mais ni pour... Bon, en ce qui est la taille n'est pas un indicateur de la complexité du cerveau, ça accompagne la croissance de complexité, et le nombre de gènes ici, paradoxalement, est stable et, comme vous le voyez ici, change peu de la souris à l'homme. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une évolution génétique, loin de là. Cette évolution existe, mais elle se fait avec un petit nombre de variants génétiques. D'ailleurs, vous pouvez l'imaginer, une évolution ultra rapide, comme celle de l'Homo sapiens, n'a pas pu engager un changement dramatique de l'ensemble du génome humain. C'est seulement quelques événements qui sont produits, entre autres des duplications géniques qui sont communes, et ça c'est important de le souligner, à pratiquement toutes les ethnies qui existent sur Terre aujourd'hui, et qui ne se retrouvent pas par contre dans le génome du chimpanzé. Donc il semble que cette évolution ait pu faire intervenir à la fois des pertes de gènes ou des duplications de gènes. Un coût sur le plan génétique extrêmement modeste, et il faut donc trouver des mécanismes essentiellement développementaux pour lesquels des événements génétiques modestes entraînent des changements relativement importants, et je ne vous présente pas, mais les modèles ont été construits, des modèles qui mettent en correspondance l'évolution de facteurs de transcription au niveau génétique et l'expansion, que vous voyez ici, de territoires, ici du cortex cérébral, et qui peuvent rendre compte de ces changements morphologiques importants. Ce qui est important de souligner, c'est que cet accroissement de taille et de complexité a évidemment une enveloppe génétique, et je l'ai souligné, j'insiste sur ce point, mais qu'il faut trouver d'autres mécanismes additionnels qui s'ajoutent, si j'ose dire, à ces mécanismes purement génétiques et qui vont contribuer à cet accroissement de complexité. Et c'est dans ce contexte qu'avec Antoine Danchat, nous avons proposé une théorie il y a bien des années de stabilisation sélective des synapses qui, je pense, contribue de manière très très importante à l'humanisation et à l'individuation au sein des populations humaines et à l'origine et au développement de la culture. Je pense qu'on ne prend pas suffisamment en considération le fait qu'il y a un accroissement considérable de taille du cerveau du nouveau-né à l'adulte d'un facteur 5. C'est énorme. Et ce facteur 5 est intéressant à prendre en considération parce que il est évident que les voies génitales ont peu évolué, elles ont évolué, mais pas de manière très significative, des ancêtres de l'homme à l'Homo sapiens, et que la solution qui a été trouvée par l'évolution biologique, c'est que le développement qui suit la naissance va participer à l'accroissement de complexité du cerveau et que, au fond, le cerveau lui-même, à la naissance, aura une taille assez comparable à celui des ancêtres de l'homme qui n'ont pas cette évolution postnatale de manière aussi significative. Donc, ce qui est très important, c'est de souligner ce trait qui est quasiment unique à l'homme. Je vais vous montrer une diapositive dans quelques minutes sur ce sujet. Alors, ce qui est évidemment important de souligner, c'est que pratiquement la moitié de nos connexions se mettent en place après la naissance. Et ça correspond, comme je le disais tout à l'heure, à, entre 10 puissance 14, puisque 10 puissance 15, c'est à peu près un chiffre qui correspond au total de nos connexions. Donc la moitié de ces connexions se développent, j'ai mis 500 000 milliards de connexions qui se développent après la naissance. Et lorsque vous regardez pendant quelques secondes un bébé qui se développe, il y a des centaines de milliers de synapses qui, par seconde, se développent. Donc c'est un incroyable, une incroyable prolifération synaptique qui se produit dans la tête du bébé après la naissance. Et la thèse que nous avons proposée avec Philippe Courage, Antoine Danchin, c'est que au cours de ce développement synaptique, il y a des étapes emboîtées. J'aime beaucoup ce terme d'emboîtement ou d'enchâssement. Je l'ai déjà mentionné de l'évolution génétique à l'évolution culturelle. Et là, c'est au sein de ce développement qui est très prolongé. Il y a des étapes successives de mise en place des connexions dans ces réseaux qui se construisent. Et l'idée, c'est qu'il y a des phases transitoires d'exubérance connexionnelle suivie de sélection et que l'activité du réseau joue un rôle critique dans la sélection du réseau adulte. Et je pense que là aussi, c'est intéressant parce qu'on fait, si j'ose dire, une économie de gènes. On n'a pas spécifier point par point la connectivité du réseau adulte, mais on va spécifier simplement les relations entre ces axones en croissance et la cible, à ce niveau de ce circuit particulier. Encore une fois, je me permets d'insister sur ce point. Et il va y avoir donc à chacune de ces étapes sélection de synapses qui va se produire. Ça, c'est le modèle, encore une fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une contribution, évidemment, du monde extérieur sur la construction du système et que ces étapes successives vont s'emboîter les unes dans les autres. C'est-à-dire qu'à un certain moment du développement, il va y avoir un type d'interaction avec le monde extérieur qui va se produire, puis ensuite les choses se construisent et que ces modes d'interaction vont évoluer progressivement au cours du développement de l'enfant avec des périodes sensibles. Vous connaissez très bien cette période sensible pour l'acquisition du langage. Alors, un des aspects intéressants de la modélisation que nous avions faite à l'époque, c'est que c'est une modélisation qui est poussée très loin sur le plan mathématique par Philippe Courage. Et il a pu faire une démonstration intéressante, c'est que dans un schéma darwinien, en quelque sorte épigénétique, le même message afférent peut stabiliser des distributions de connexions différentes, mais présentant le même rapport entre entrée et sortie. C'est-à-dire qu'il va y avoir donc une variabilité épigénétique d'un individu à l'autre, et néanmoins, cette variabilité va disparaître au bénéfice de la relation entrée-sortie qui pourrait être la même. Alors c'est un point important parce que parmi vous, il y a certainement personnes, je ne les connais pas, qui, et je ne leur demande pas de lever la main d'ailleurs parce qu'elles ne le savent pas elles-mêmes, qui vont avoir leur aires du langage latéralisées à droite. La majorité d'entre nous avons les aires du langage latéralisées à gauche. D'ailleurs, personnellement, je ne sais pas si c'est, je suis latéralisé à gauche ou à droite. Un point tel que quand on fait des interventions chirurgicales, par exemple épilepsie ou élimination d'une tumeur cérébrale, les neurologues, évidemment, font des tests pour savoir où se situent les territoires du langage, à droite ou à gauche. Les tests à l'amygdale au niveau des carotides. Donc, ça veut dire que d'un individu à l'autre, il y a une variabilité épigénétique qui peut être considérable et qu'on ne voit pas, qui ne se manifeste pas. Et nous arrivons néanmoins à une certaine forme d'universalisme épigénétique, en quelque sorte, puisqu'après tout, vous me comprenez, du moins j'espère, et si je parlais anglais, j'arriverais à transmettre un message assez semblable à celui que je transmets en français. Donc il y a une certaine forme d'universalité à ce niveau-là. Donc c'est intéressant de souligner ce point qui, là encore, a donné lieu à des débats philosophiques à n'en plus finir, l'argument étant que entre autres dans les débats avec les cognitivistes, les philosophes cognitivistes, qui prétendaient que ce n'est pas utile du tout de savoir que le cerveau est constitué de neurones, qu'on s'intéresse simplement aux fonctions et qu'un programme d'ordinateur suffit pour comprendre la pensée. Bon, parce que, disaient-ils, plus maintenant, bon, enfin, je pense qu'ils le disent toujours parce qu'ils ne s'intéressent pas tellement à la neurobiologie, mais ils prétendaient qu'il n'y a pas de relation univoque entre la connectivité et la fonction. C'était ça leur débat, et donc c'était en fait un dualisme méthodologique qui a conduit à beaucoup d'obscurantisme et de conflits entre les sciences cognitives et neurosciences, qui sont maintenant évidemment... moins vivant, je dirais même quasi inexistant. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que si vous comparez cette période post-natale de variabilité synaptique ici, vous voyez qu'elle évolue de manière dramatique de la souris rat au macaque à l'homme. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'évolution darwinienne a conduit à la sélection d'un individu particulier qui est l'Homo sapiens, qui passe quand il est apparu en Afrique, la moitié de son temps à construire son cerveau. Il passe 15 ans de sa vie à construire son cerveau, alors qu'il ne vit qu'entre 20 et 30 ans. Ce qui est quand même un phénomène extrêmement intéressant, et ce qui tend à suggérer aussi qu'il y a une relation entre l'évolution génétique et l'évolution culturelle, en quelque sorte, puisque cette période prolongée, évidemment, comme je l'ai dit, permet l'évolution, la formation de la culture et l'évolution culturelle. Et nous nous posons la question de savoir quel est le système de rétroaction, justement lié au développement des capacités cérébrales, qui a conduit à la sélection de l'Homo sapiens. Et ce n'est pas impossible du tout que les ancêtres de l'Homo sapiens aient eu... une connaissance suffisante de leur, entre guillemets, génétique pour influencer celle-ci et qu'il y ait eu des dispositifs soit de cannibalisme, soit de polygamie des chefs, etc., soit de sélection divers qui ont permis aux ancêtres de l'Homo habilis à l'Homo sapiens de modifier son évolution génétique. Donc ça, c'est intéressant à souligner pour... le propos de cet exposé, je pense que l'humanisation était en quelque sorte contre nature, si j'ose dire, de même que la médecine l'est. La médecine est avant tout contre nature, puisque on essaye de se protéger contre des phénomènes naturels qui sont en l'occurrence des maladies et des infections, etc. Donc je pense que c'est intéressant de réfléchir à cette possibilité qui n'est pas démontrée mais qui paraît quand même assez plausible. Alors je voudrais dire que cette épigénèse peut modifier de manière très significative la connectivité du cerveau. Vous avez ici un travail assez ancien de Martin Ingvar. Récemment, Stanislas Dehaene a poursuivi cette analyse et a montré qu'il y a des changements globaux très importants de notre connectivité cérébrale associée à l'apprentissage de l'écriture. Et je dirais que j'appelle ça les circuits culturels que nous sommes soumis à cette épigénèse, sans que nous le sachions d'ailleurs, parce que tout ça est évidemment non conscient, d'une manière tout à fait majeure, d'abord dans l'acquisition du langage, qui est le nôtre, mais aussi de l'appartenance à une culture, une civilisation occidentale, chrétienne entre guillemets, ou autre. Et tout ça est lié simplement au fait que le nouveau-né est né dans un environnement et qui possède ses caractéristiques culturelles et qu'il y a donc, je dirais, une variabilité qui est purement circonstancielle, qui fait qu'un tel va être bouddhiste, un autre musulman et un troisième catholique, donc protestant. Donc c'est important de souligner ce relativisme culturel et ce relativisme des systèmes de croyances qui imprègnent de manière extrêmement puissante nos cerveaux d'adultes. Je pense que cette réflexion est importante à avoir sur le plan politique car elle conduit, disons, à une réflexion sur la laïcité de l'enseignement et sur le fait qu'on peut évidemment biaiser cette évolution de la connectivité cérébrale par l'éducation d'une manière positive ou négative. Alors, simplement, juste pour illustrer cette imprégnation culturelle gréco-romaine ou chrétienne, et arriver, pour conclure, je vais conclure dans 5 minutes, hein, ça ira. Il est 40, oui, j'ai encore 5 minutes. Conclure sur l'accès à la conscience. Alors, ici, certains d'entre vous voient un homme, d'autres une femme. Quels sont ceux qui voient une femme? Oui, et bon. Il y a M. Alain Berthaus qui voit les deux, il a tout à fait raison, parce qu'on passe effectivement d'un homme à une femme. Vous voyez ici un homme avec son nez et son œil, ou une femme avec sa tête et son bras. Et donc, c'est ce qu'on appelle une image ambiguë qui montre que nous avons ici à faire un accès de tout ou rien à la conscience. Donc, il y a un processus physiologique, c'est l'accès à la conscience, qui se produit dans notre cerveau. Et la thèse que nous avons proposée avec Stanislas Dehaene il y a bien des années maintenant est que intervienne dans la création de cet espace de travail conscient dans lequel se produit ces changements de représentation, enfin de perception d'une représentation du monde extérieur. Cet espace de travail neural conscient, d'une manière extrêmement, je dis, simpliste, nous l'attribuons à l'existence d'une connectivité qui permet cette globalisation. C'est quelque chose de bon sens sur le plan de la neuroscience. Et que cette connectivité, on peut d'abord la suivre, par exemple, par tractographie. Vous voyez des magnifiques images récentes de cette connectivité à longue distance. Et la thèse étant que il y a au moins deux grands types d'espaces computationnels, les processeurs, qui vont être modulaires et automatiques, comme vision, audition, etc., non conscients. Et puis, un espace de travail global conscient, où il y a une redistribution des signaux et une expérience subjective d'être conscient, de pouvoir, par exemple, interpréter cette image d'une manière ou d'une autre, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Et évidemment, de rapporter cette expérience. Ça, c'est un point important. Vous allez pouvoir dire « Ah, j'ai vu un homme ». Vous voyez, quand vous avez levé la main, vous avez rapporté votre expérience consciente. Donc, c'est la thèse que nous avons développée. Et juste pour illustrer ce point, le travail de Stanislas, il y en a bien d'autres qui ont été faits en parallèle sur le même thème et qui ont dit la même conclusion. Ici, si vous soumettez un sujet à cette succession de diapositives, vous voyez dans des temps très rapides, Ici, c'est même 30 millisecondes, c'est très bref. Vous demandez au sujet qu'est-ce que vous avez vu. Il dit « Ah, ben, j'ai vu le mot lion ». Et là, on lui demande « Qu'est-ce que vous avez vu ?» Et « Oh, j'ai rien vu du tout ». Et la seule différence, c'est que ici il y a des blancs et là, il y a des masques entre les mots. Vous voyez, donc, c'est les mêmes diapositives, mais disposées de manière différente. Et dans un cas, il y a lecture consciente, dans l'autre, non consciente. Et les territoires cérébraux activés dans le cas de la lecture consciente sont multiples et engagent le cortex préfrontal, alors que dans le cas de la lecture non consciente, il n'engage que les territoires des processeurs intervenant dans la lecture. Donc, il y a des moyens de suivre l'activité consciente et non consciente. Et vous voyez ici un autre exemple en utilisant des l'électroencéphalographie, le signal lié à la perception consciente en rouge et non consciente au niveau du cortex frontal et pas du cortex temporal. Donc vous voyez cette différenciation qui permet donc un examen objectif de la perception consciente par rapport à non consciente. Donc voilà quelques idées sur la conscience et je termine en disant que on peut, dans ces conditions, aussi proposer des modèles de l'activité spontanée dans l'espace conscient, et à ce niveau-là aussi parler d'essais d'erreurs. D'ailleurs, quand vous-même vous faites fonctionner votre imagination et vous réfléchissez sur un thème, il y a plusieurs idées qui apparaissent et vous en choisissez une. Bon, voilà, c'est simplement subjectivement une certaine forme de variabilité et qui conduit à la sélection d'une des représentations du monde au niveau de votre espace de travail conscient. Bon, je pense que je vais terminer là en allant très rapidement, pardonnez-moi, sur les dernières diapositives parce qu'il est 9h45, mais c'est des choses simples que vous connaissez tous. L'idée qu'il puisse y avoir des systèmes de représentation qui varient d'un lieu de la planète à l'autre en fonction de son histoire, comme je le disais avec Jean-Pierre Vernon qui me dit critiquer en disant « Mais avec ta façon de voir, tu oublies l'histoire ?» Je dis « Pas du tout. L'histoire, elle s'inscrit dans le cerveau et c'est le cerveau qui produit l'histoire. » Effectivement, l'histoire, elle est là en permanence. Et donc, pour expliquer cette diversité des systèmes de représentation, entre autres mythiques, rituels, religieux et évidemment éthiques, Donc, je placerai le questionnement de ce colloque dans ce cadre, évidemment, de variabilité culturelle. Et il est possible de faire des modèles de la normativité éthique qui fait que chaque groupe social a établi ses règles de conduite, avec aussi certaines formes, d'ailleurs, qui peuvent apparaître d'universalité, liées simplement au fait que nous avons des cerveaux qui ont des propriétés communes, et arrive dans tout cela, au cours de l'histoire, comme le disait Jean-Pierre Vernon, l'agora avec la confrontation des diverses représentations du monde au niveau d'un débat public et critique, et l'apparition de la science, donc. Avec la présentation de modèles que peut-être notre ami Alain Berthaus a discuté avec des visions qui sont d'abord égocentriques. Nous sommes là pour parler de notre société et de notre vision du monde qui est évidemment égocentrique. Et après tout, les Chinois n'ont pas tout à fait tort quand ils disent que les Occidentaux veulent imposer leur façon de voir et qu'eux ont eu cette façon de voir depuis Confucius, bien plus ancienne que la nôtre, et que pourquoi pas eux-mêmes considérer qu'ils sont au centre du monde. Enfin, je pense qu'il faut bien considérer la réciprocité à ce sujet. Mais la science est là, qui, elle, est universelle, au-delà des barrières culturelles, et avec justement l'expérimentation, et c'est ma dernière diapositive, l'accès de cette connaissance scientifique à la normativité éthique. Alors là, je sais que c'est une chose qui est très débattue. Pour ma part, je pense que, évidemment, une connaissance plus approfondie, je dirais scientifique, de l'homme, de son cerveau, de ses productions cérébrales, de la diversité culturelle, doit nous permettre de mieux comprendre ce qu'est non seulement l'humanisation, mais surtout l'humanisation, qu'il n'y a pas de mystère à ce niveau-là, mais des connaissances à acquérir, et qu'on peut espérer, si nous avons une vision un peu universaliste de l'humanité, à une meilleure entente en proposant des normes universelles, comme celle de la Déclaration des droits de l'homme et tout travail que Mira et Delmas Marty réalisent depuis de nombreuses années. Je vous remercie. D'accord. Tu veux utiliser l'ordinateur ?
Merci beaucoup pour nous avoir ainsi, je dirais, éclairé sur le matérialisme éclairé, ou alors le matérialisme instruit, puisque vous préférez...
C'est pas moi, hein, c'est Bachelard.
C'est Bachelard, mais repris par vous. Alors, il y aura certainement débat sur cette question même, et sur ce que vous avez dit aussi à la fin, la solution qui marche, c'est la plus conforme au réel.
Oui. Oui,
en même temps, vous avez dit, dans le courant de l'exposé, l'humanisation se fait contre la nature, d'une certaine manière.
Oui, enfin, j'employais ça un peu sous forme métaphorique pour, en quelque sorte, contraster les deux aspects que vous-même, d'ailleurs, vous avez contrastés dans votre
proposition. Tout à fait.
Ceci dit, je pense que l'humanisation est évidemment un produit de l'évolution biologique qui a participé à l'hominisation. Donc, ce n'est pas contre la nature humaine, entre guillemets. Je pense qu'il faut être clair sur ce sujet. Alors, c'est la nature humaine qui permet l'hominisation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, si vous voulez, quand on... c'est le mot naturel qui est à débattre à ce niveau-là.
Alors, avant...
Parce que quand on parle, par exemple, de médecine naturelle, ou quand on parle d'écologie, retour à la nature, ou de technologies qui sont contre nature, c'est des termes qui sont employés en permanence. Hein, et je pense que l'Homo sapiens a lui-même inventé des méthodes pour... enfin plutôt les ancêtres de l'Homo sapiens, pour conduire à l'Homo sapiens, que nous considérerions aujourd'hui comme totalement contre nature. Donc c'est là le paradoxe intéressant à débattre dans le cadre de votre propos.
Tout à fait. Donc avant de débattre sur ce paradoxe particulier, je voudrais qu'intervienne comme discutant, comme nous l'avions prévu, Dominique Lambert, qui va en fait... poser la question un peu différemment, parce que Dominique Lambert est physicien, il est philosophe en même temps, aux facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, et en fait il travaille, lui, beaucoup à l'heure actuelle, sur l'autonomisation, non pas de l'homme, mais du robot, ce qui l'amène à se poser la question sous un angle un peu différent, qui peut être éclairant par rapport à notre propos.
Merci. Donc on m'a demandé d'intervenir pendant 5 minutes, ce qui sera difficile vu la richesse de l'exposé. Et merci pour ce bel exposé. J'aurais voulu commencer par poser une question sur justement l'origine de la normativité. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu comment, d'une certaine manière, arrive cette question de la normativité dans le cadre d'un fondement, hein, d'un matérialisme instruit? Et d'autre part, et ça m'a fort frappé, et d'ailleurs dans toutes tes publications, c'est le lien avec l'art. Qu'est-ce qui fait aussi l'origine de cette capacité esthétique, et est-ce qu'elle est concomitante de la dimension éthique. Oui. Et pourrait-on voir dans des processus évolutifs une disconnexion entre l'émergence de la normativité éthique et l'émergence de la dimension esthétique. Donc ça, ce serait ma première question.
Est-ce que je réponds tout de suite ou est-ce qu'on attend la suite?
Comme vous préférez répondre au fur et à mesure.
Oui.
Il faut rapprocher le micro.
Oui, je voudrais dire qu'il n'y a absolument pas de contradiction, bien au contraire. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Et qu'il y a une dimension que je n'ai peut-être pas suffisamment souligné, et bon, ça c'est dû à la brièveté de mon exposé, malheureusement, c'est la dimension sociale de l'évolution humaine. Hein, je pensais que Alain Berthoz en avait parlé peut-être à propos de l'empathie, et tu as dû parler de cet aspect-là, donc c'est pour ça que c'est la raison que je l'ai omis de ma présentation, mais il est évident qu'au cours de l'évolution des ancêtres de l'homme, il y a eu cette dimension sociale qui est extrêmement importante. Et sans aller nécessairement adopter les thèses de Kropotkin et des autres penseurs post-darwiniens, il est évident que la vie sociale et entre autres la coopération sociale a joué un rôle très important dans l'évolution biologique de l'être humain. Et là, les problèmes de génétique se trouvent non résolus. C'est donc une hypothèse qui a été avancée. Je pense que d'une manière ou d'une autre, il y a une relation entre l'évolution sociale et l'évolution génétique. Et qui a donc permis cette ouverture, en quelque sorte, du cerveau de l'homme à non seulement son environnement. Bon, j'ai parlé de l'acquisition de l'écriture, par exemple, etc., mais aussi, bien entendu, de la vie sociale en général. Et je pense que l'activité esthétique a contribué énormément. D'ailleurs, il suffit d'aller voir l'exposition sur les Dogons ou d'autres expositions sur les arts des sociétés sans écriture pour se rendre compte à quel point cette activité artistique a eu une importance au niveau de la vie sociale. Donc ça va de pair, je pense, aussi avec la normativité éthique qui a pour visée, évidemment, d'éliminer les conflits au niveau du groupe social et permettre à une société d'être, si j'ose dire, plus invasive qu'une autre. Bon, et il est évident que certaines traditions ont permis à certaines sociétés, je dirais que la tradition judéo-chrétienne, a permis peut-être aux Occidentaux d'avoir un pouvoir invasif sur la planète beaucoup plus important que d'autres sociétés. Avec, disons, des systèmes éthiques qui ont favorisé cette expansion. Donc, je pense qu'il y a une relation évidente, selon moi, entre évolution biologique, entre guillemets, humanisation et ces systèmes de représentation collective que sont l'art, l'éthique et évidemment la connaissance scientifique.
Merci. Je continue. Donc j'avais une deuxième question sur, justement, et je rejoins Madame Delmas-Marty, c'était la question justement l'humanisation contre nature. Je voudrais revenir sur ce point en demandant, mais est-ce que on ne pourrait pas dire que la nature de l'homme, c'est justement probablement d'avoir une capacité peut-être de façonner une réalité nature inachevée. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas dire d'une certaine manière que la nature humaine est justement liée à une sorte d'inachèvement qui ne lui permettrait pas de préciser entièrement ici et maintenant ce qu'il est. Donc une sorte de la nature de l'homme, c'est d'une certaine manière de ne pas en avoir parce qu'il peut toujours se la façonner.
D'ailleurs, j'ai donné cette réponse tout à l'heure. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec cette idée. J'aime pas le terme inachèvement parce que je préfère d'organisation en devenir. C'est-à-dire que c'est comme je l'ai dit, une synthèse d'évolution qui est constante. Et il y a à la fois donc, ces évolutions dans le cerveau et à l'extérieur du cerveau et qui sont en interaction constante. On a affaire à des systèmes évolutifs en constante évolution. Que je me répète, mais enfin, c'est effectivement inscrit dans la nature humaine de pouvoir être contre nature, si j'ose dire, enfin, d'une manière un peu paradoxale, pour aller dans ton sens. Hein.
Mais est-ce que la difficulté, peut-être, une des difficultés, un déblocage peut-être philosophique, est que, dans le fond, on a souvent hérité d'une ontologie qui n'est pas suffisamment plastique. Donc les formes aristotéliciennes, par exemple, ou héritées de la tradition scolastique, avaient une rigidité.
Oui,
et donc penser une ontologie, disons, de la
absolument,
plastique pourrait
aider.
Absolument,
je pense que le cas des cellules souches aujourd'hui est très caractéristique d'une espèce de permanence d'idées conservatrices sur l'œuf humain, etc., qui date de présupposés judéo-chrétiens d'il y a 2000 ans, qui, après tout, avaient leur fondement peut-être à l'époque et étaient intéressantes pour la société de l'époque, mais qui, aujourd'hui, sont d'un autre siècle. Et que ce que les gens qui sont aussi les choses ne comprennent pas, c'est qu'en fait, la raison pour laquelle le monde scientifico-technologique s'intéresse à ces cellules souches, c'est pour progresser dans la survie de l'humanité et sa qualité de vie. Donc, en quelque sorte, en défendant des thèses passéistes, ils deviennent, entre guillemets, si j'ose dire, contre nature. Si je peux me permettre à nouveau un paradoxe, en ce sens que, en fait, le progrès technologique qui existe et qui est une réalité, non seulement on ne peut pas le mettre, mais toute la question est de savoir comment l'utiliser pour, justement, le modèle qu'on se fait de l'humanité, de son avenir, voilà, et de sa qualité de vie. Donc le problème, c'est de ne pas, ce n'est pas tellement d'être conforme ou non à des présupposés philosophico-théologiques, mais de se poser la question, quel modèle on se fait de l'humanité, et qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il puisse vivre dans des conditions à peu près adéquate à son environnement dans les années à venir, et qui d'ailleurs pose des problèmes énormes. Et les problèmes, entre guillemets, écologiques, de mon point de vue, sont à résoudre par la compétence scientifico-technologique de l'humanité. Aussi, si on veut rejeter le nucléaire, il faut qu'on invente scientifiquement de nouvelles méthodes qui permettent de produire de l'énergie pour que l'ensemble de l'humanité puisse survivre.
Mais dans le prolongement de ce que vous dites, est-ce qu'on ne peut pas considérer que l'inhumain sera le propre de l'homme ?
C'est évidemment une question piège.
Pardon.
Intéressante. Est-ce que ce crime que nous venons de... Je ne sais pas comment le juriste réagit au crime ligonnais, ça.
Le juriste s'interroge sur l'inhumain, justement.
Et je pense qu'effectivement, l'inhumain fait partie de l'humain. Je pense que... C'est-à-dire que sinon, il n'y aurait pas de normativité, si on peut employer ce terme. Sinon, il n'y aurait pas de normativité. C'est-à-dire que l'être humain a une organisation cérébrale qui est en grande partie hérité de ses ancêtres non humains. À titre de curiosité, par exemple, nos récepteurs synaptiques sont hérités des bactéries. Nous avons dans notre cerveau des récepteurs pour l'acétylcholine, entre autres, qui sont quasiment identiques à des récepteurs qui se trouvent dans des cellules bactériennes il y a 3 milliards d'années. Donc, vous voyez, nous avons hérité, c'est un exemple de quantité de structures qui ne sont pas propres à l'humain et qui sont conservées dans nos gènes et entre autres certains aspects qui font partie de ce que Darwin appelait le struggle for life, c'est-à-dire qu'il y a évidemment une partie de nos conduites qui contiennent cette agressivité pour survivre et qui sont parfois, et là donc, quand vous posez la question humain non humain, c'est vous-même qui faites des catégories, je vous signale. Contient un présupposé philosophique de la définition de ce qui est humain et de ce qui n'est pas humain.
Oui, en tout cas.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons donc certaines dispositions à l'agression. Et je ne parlerai pas du mot mal, qui reste un paradoxe pour Ricoeur. Il a passé sa vie à essayer de justifier, de mettre en conformité sa réflexion philosophico-religieuse avec cette existence du mal. Et moi, j'ai lu beaucoup de textes qu'il a écrits sur ce sujet parce que j'ai été interpellé par plusieurs personnes sur ce point. C'est un fait que c'est pour moi totalement non convaincant. C'est-à-dire que le mal, entre guillemets, fait partie, en fait, si j'ose exprimer ainsi, de ces dispositions que nous avons. Il n'y a pas, pour moi, de mal ou de bien, de manière absolue.
Mais dans le dialogue que vous avez eu...
Pour répondre, c'est humain et non humain. Il faudrait déjà savoir quelle est la définition de l'humain que vous donnez pour y opposer le non humain. Ce que je veux dire par là, c'est que, si vous voulez, dans la poursuite que nous avons en commun de valeurs civilisationnelles au niveau de l'humanité dans son ensemble, il est évident que se trouvent des obstacles qui sont les conflits que nous voyons, d'ailleurs, quelles que soient les normativités éthiques propres à chacune des sociétés qui est en conflit. Parce que si vous regardez les grandes religions ou les grandes philosophies, même bouddhiques ou chrétiennes et autres, il est évident que le crime fait partie de ce qui est entre guillemets appelé le mal, et dans le décalogue, c'était tu ne tueras pas ton prochain, c'est vraiment une des premières normes qui n'est pas respectée par aucune de ces sociétés. Il suffit d'aller au Moyen-Orient pour se rendre compte que les sociétés qui se trouvent là, qui ont toutes dans leur normativité, je dirais, traditionnelle, l'abandon du conflit, le pratiquent en réalité. Que la première des choses que les chrétiens ont fait, c'est de faire des croisades, etc. Enfin, j'en parle plus contre les hérétiques et compagnie. Enfin, le nombre... J'étais à Turin et il y avait un très beau tableau sur Savonarole et le tribunal ecclésiastique était là devant des pendaisons collectives, tout ça présidé par un évêque mitré, etc. Donc je pense que c'est intéressant de réfléchir à votre question se dire qu'au cours de l'histoire passée et actuelle, nous nous trouvons dans des situations où, entre guillemets, cet inhumain, j'en prends vos termes, même si ce n'est pas le mien, existe.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas justement situer ce qui est... parce qu'il faut distinguer non-humain de inhumain, parce qu'on l'associe alors à la barbarie, etc. Mais est-ce que ce qui n'est pas le propre de l'humain, c'est justement cette interaction entre une structure biologique assez universelle et des structures sociales qui, elles, sont plus historiques, et c'est dans la tension entre l'universel et le singulier que se joue toute la richesse de l'humain. Si bien que si on accentuait le pôle d'un universalisme abstrait, objectivant, peut-être qu'on risquerait de tomber dans la barbarie, tandis que si on maintient cette relation entre ce qui est historique, ce qui est singulier et ce qui est plus universel, peut-être est-ce là une des manières...
De toute façon, je pense que je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais je ne vois pas dans l'universalisme une forme de barbarie.
Non, je veux dire, c'est une accentuation d'une objectivité...
Je pense que la démarche scientifique est universaliste.
Oui, bien sûr.
Et finalement, à mon avis, la solution est là. C'est-à-dire d'un bon usage, si j'ose employer le terme, de la connaissance scientifique au bénéfice de l'humanité dans son ensemble. Et je pense aussi qu'on n'arrivera jamais à obtenir des individus, enfin disons à imaginer des individus qui aient une existence adulte sans avoir eu d'imprégnation culturelle. C'est une utopie qu'on a trouvée dans des pays totalitaires où le totalitarisme était présent. C'est-à-dire que je suis évidemment d'accord avec toi qu'il faut arriver à une solution universaliste qui accepte des différences épigénétiques. Et je pense que la connaissance scientifique du développement du cerveau humain contribue à objectiver cette notion et à de dire qu'après tout, dans tous ces systèmes de croyances, aucun n'est vrai, entre guillemets, ou tous le sont, peu importe. Pour chaque individu, ces systèmes de croyances sont vrais, mais si on se place avec une certaine distance, ils ne le sont pas. Et en fait, il y a un relativisme d'une culture à l'autre. Et ce qui est très important, c'est d'arriver à faire accepter par un groupe social, en quelque sorte, le relativisme de sa propre culture. Et ça, c'est quelque chose qui est, jusqu'à présent, très difficile à faire accepter par aucune société actuelle, sinon par ce que j'appelle l'éducation laïque, la laïcité, pardonnez-moi, parce que je crois que vous y êtes aussi très attachés. Mais pour ma part, c'est une éducation essentielle sur ce plan. Je pense qu'une éducation laïque, c'est une éducation qui, met en avant l'acceptation d'une différence épigénétique de l'autre, bien que ayant les mêmes dispositions universelles de son cerveau. Voilà.
Bien que rationnellement, les conséquences de toute position individuelle ne sont pas évidemment équivalentes. Il y a des gens qui prennent à titre personnel ou dans un groupe des positions dont les conséquences sociales et politiques pourrait évidemment ne pas être équivalente à d'autres, d'où le danger de ne pas tomber non plus dans une sorte de singularisme ou de valorisation pure et simple, au même niveau de toute singularité. C'est pour ça que je voyais plus dans l'équilibre entre l'universel et le singulier.
Je suis tout à fait d'accord avec cette position. Je n'ai pas du tout d'objection à ça. C'est justement arriver par le système éducatif à ce que nous aboutissions à ce que tu suggères. Mais je pense que ça demande une éducation au niveau scolaire et surtout au niveau adulte, en quelque sorte, qui demande beaucoup d'efforts. Et après tout, nous avons une conscience et dans notre cerveau, elle est là pour ça.
Merci.
Alors, on va laisser ouverte la question de l'inhumain. Et je me souviens que dans votre dialogue avec Paul Ricoeur, à un moment, Ricoeur dit « Mais la nature nous a laissés au milieu du gué. »
Oui.
Donc on laisse la question ouverte, si vous voulez bien. Je vous remercie.